France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne. Bonjour, cette semaine va nous conduire en partie vers le département du Var où se prépare entre autres la création d'une coopérative d'entrepreneurs qui réunira des artisans et des professionnels de la communication. Le lieu qui devrait s'ouvrir au début de l'année prochaine s'appellera la Mescla. Nous serons ensuite à Paris au siège de la CASA, une association d'aide aux mineurs non accompagnés, aux exilés, qui a vu le jour pour ainsi dire en pleine crise sanitaire, ce qui l'a forcé à entrer de plein fouet dans l'action d'urgence.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Canel Carl, bonjour.
Bonjour Philippe.
À chaque fois que j'ai un prénom inédit, je fais un vœu. Alors, le vœu de réussite aujourd'hui pour la Mescla, je dis inédit parce que vous êtes la première Canel à intervenir dans nos carnets, si mes souvenirs sont bons. La Mescla, c'est un projet de CAE, de coopérative d'activité d'emploi en Provence-Verdon.
Oui, en fait, mon ami Arnaud Lafarge et moi-même, qui connaissions beaucoup d'acteurs locaux de par nos investissements respectifs dans les milieux associatifs et professionnels, on s'était aperçu que ce modèle de coopérative, que on connaissait bien pour l'avoir pratiqué nous-mêmes, on en trouvait des coopératives sur la côte, oui. Que ce soit à Marseille, à Toulon, à Nice, etc. On en trouvait dans les Alpes, où culturellement c'est beaucoup plus implanté comme modèle, mais il n'y en avait pas autour de chez nous. Et on s'est demandé si ça pouvait intéresser les acteurs locaux de notre connaissance, que ce soit des gens qui avaient des idées de projet ou des gens qui étaient déjà, pour certains, installés à leur compte depuis des années.
La plupart du temps, ce sont des personnes qui travaillaient seules jusqu'à présent.
Beaucoup d'entre elles. Et qui avaient pour beaucoup le souhait de travailler plus facilement ensemble. Alors il y en a, c'est pour disposer d'un espace de travail, très concrètement.
Oui.
Des personnes qui sont plutôt dans les métiers de la communication et qui avaient besoin d'avoir un peu l'équivalent d'un espace de coworking, ce qu'on n'a pas ici dans notre zone rurale. Et il y a d'autres personnes où c'était plutôt pour pouvoir répondre ensemble à des appels à projets, par exemple.
La coopérative d'activité d'emploi, c'est un bon tremplin lorsque l'on veut débuter et puis se dégager des tâches administratives, entre autres, avoir un peu de visibilité, éventuellement profiter de locaux et être aidé dans le développement de sa activité. Pour d'autres personnes qui sont déjà en exercice, il y a un intérêt, c'est de sortir un peu de son isolement, comme on le disait indirectement. Pourquoi pas de trouver des modes de travail coopératif à l'intérieur de la CAE. Ça nécessite un lieu, ça nécessite des moyens. Est-ce que vous les avez trouvés ?
On est en bonne voie de les trouver. Pour tout vous dire, à propos du lieu, on est en discussion avec la commune locale de Pontevès qui nous a proposé un local et avec laquelle on va signer très prochainement une convention d'occupation. Mmh. Et à propos des moyens plus financiers, on a déposé dans le courant du mois de septembre une demande de subvention auprès du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Demande qui sera étudiée par les élus régionaux en décembre.
Qu'est-ce que vous attendez d'elle en résultat, en impact et en rayonnement ?
En résultat très, très concret et très rapide, s'il pouvait y avoir dès le début, et a priori ce sera le cas, un petit noyau de personnes qui auraient à la fois pour certains la posture de testeurs, donc des gens qui ont des idées mais qui ont, pour des raisons souvent d'engagement en fait, se sont pas lancés dans la création de leur propre micro-entreprise. S'il pouvait y avoir voilà d'une partie quelques testeurs et puis de l'autre des personnes qui sont plutôt sous des statuts de micro-entrepreneurs et qui basculent vers cette dimension-là de salarié-entrepreneur, nous ce serait déjà un résultat. Si la première année il y a une dizaine de personnes, c'est déjà un résultat concret qu'on vise. Après, à propos des salariés-entrepreneurs, je me permets simplement de rebondir lorsque vous parliez des avantages. Le principal avantage tout de même de ces coopératives, c'est de proposer plus de confort social que ce qu'elles peuvent avoir en ayant une micro-entreprise.
Alors, différentes activités peuvent entrer et être représentées par cette coopérative d'activité d'emploi, mais il y a quand même un fil conducteur, c'est l'alternative environnementale.
Oui, en fait, les personnes qui sont engagées dans le petit groupe projet qu'on a créé ces derniers mois sont toutes teintées d'un engagement environnemental fort. Donc, par exemple, au sein des artisans, les personnes qui sont dans le bâtiment font de la rénovation de bâtis anciens ou de l'éco-construction. Elles ont toutes un engagement environnemental à leur façon et c'est un peu, effectivement, la marque de fabrique de la coopérative qu'on envisage de créer.
Le démarrage est prévu au début 2022 ?
Tout à fait. Nous devrions avoir la réponse de la subvention régionale après le vote des élus, donc en décembre ou début janvier, et ça nous permettrait d'ouvrir la coopérative au cours du premier trimestre 2022, oui.
Et le lieu d'implantation serait ce que vous appelez la Provence Verdon ?
Oui, en fait, ces coopératives sont souvent installées dans un petit village, mais elles attirent des personnes qui sont originaires de villages alentours. Et nous, le secteur géographique, a priori, ce sera celui de la Provence Verdon. Oui.
Voilà, on peut travailler dans l'agriculture, médico-sociale, la création visuelle ou textile. Hein, je cite toutes les activités potentielles, la restauration, la construction, l'aménagement. Vous êtes intéressé pour faire équipe et devenir salarié entrepreneur de la Mescla. Il y a pour l'instant pas de site, mais il y a une adresse électronique qu'on va afficher avec un numéro de téléphone si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe. Grossir cette future grande coopérative du Haut-Var. Merci Canel.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Quand on cherche à créer son activité ou son entreprise dans le cadre d'une économie sociale et solidaire, on souhaite d'abord évaluer le bien fondé de son projet avant de passer au concret. Les outils d'évaluation ne manquent pas, à commencer par les incubateurs. Exemple avec l'incubateur Émergence Périgord en Dordogne, qui nous informe du lancement de son 4e appel à projet. Cet appel permettra aux candidats de profiter de 2 étapes de préparation et d'élaboration, soit 3 mois en pré-incubateur. Il s'agit de mesurer la pertinence du projet, son potentiel économique, et puis de structurer un plan d'incubation. Cette étape peut s'enchaîner ensuite avec une incubation proprement dite, qui, elle, dure 1 an. Cette 2e étape permet de modéliser, de chiffrer le projet, d'impliquer les partenaires potentiels. L'appel à projet s'adresse aux particuliers, aux collectifs, aux structures de l'ESS déjà en place. La date limite de candidature est fixée au 15 novembre prochain, si vous habitez en Dordogne. Le site, c'est emergence-perigord.fr. Il faut savoir qu'avec cet incubateur, 60 entreprises ou activités ont été créés, ce qui représente tout de même 235 emplois. Quentin Grieau, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous avez du boulot en ce moment ?
Oui, beaucoup,
oui.
Évidemment. Oui. Il y a beaucoup de jeunes exilés qui ont besoin de nous. Et donc oui, on a beaucoup de boulot.
Oui. Entendre votre voix, pardon pour l'indiscrétion, vous êtes jeune et vous vous préoccupez du sort de mineurs non accompagnés d'exilés à Paris avec votre association La Casa. Qu'est-ce qui vous a porté vers ce mouvement de solidarité ?
C'est le hasard, puisque j'en ai rencontré un dans la rue il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans maintenant, et j'ai commencé à essayer de l'aider. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'ils étaient très nombreux, que beaucoup d'entre eux se retrouvaient obligés de vivre dans la rue. D'où la création de La Casa quelques années plus tard pour leur offrir un hébergement pour le temps de leur recours quand ils sont mineurs ou le temps de leur scolarité.
La Casa, c'est la maison ou avez-vous trouvé une maison pour héberger ces jeunes ?
Alors au départ, on n'en avait pas, donc on a dû se débrouiller sans aucune maison physique parce que c'était le premier confinement et que la situation était vraiment devenue encore plus horrible pour les jeunes exilés dans la rue. Et puis de fil en aiguille, on a fini par trouver 2 appartements qu'on loue pour eux. Et puis une partie d'entre eux aussi sont dans un squat qui est soutenu par l'association.
Je suis désolé, je reviens aux prémices parce qu'on a souvent des questions et parfois des critiques lorsque une émission comme la nôtre fait parler des personnes qui, comme vous, via une association, via une démarche personnelle, comme notre boulanger de Besançon qui avait fait une grève de la faim pour conserver son apprenti qui avait reçu une obligation de quitter le territoire, des personnes qui sont très 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 gênées d'entendre ce discours à la radio, une radio de service public. Pourtant, ça me paraît légitime aujourd'hui de se préoccuper de nos contemporains, quels qu'ils soient, et à plus forte raison des mineurs isolés, non accompagnés, et puis aussi de jeunes majeurs. Sauf que aujourd'hui, le problème, c'est le temps de régularisation qui est très long de la situation de chacun.
C'est le temps pour les mineurs, c'est le temps qu'ils soient placés au titre de leur minorité à l'aide sociale à l'enfance. C'est un temps si aucune association ne leur vient en aide, c'est un temps qu'ils perdent dans la rue. C'est un temps qui est évidemment très destructeur pour eux. alors que ce sont des jeunes qui sont très motivés, qui ont juste envie d'aller à l'école, d'avoir une formation.
Et ça, on l'entend bien, mais d'où vient l'empêchement régulariser plus directement, plus facilement, plus rapidement la situation de ces jeunes, qu'ils soient d'ailleurs mineurs ou majeurs?
Je pense que pour ce qui est des majeurs, il n'y a pas en ce moment de volonté politique de les régulariser, malgré les besoins que peut avoir l'économie française de leur talent et de leur force de travail. Tant que les jeunes qui sont dans la rue et qui sont en recours n'ont droit précisément à aucune aide de l'État.
Alors, ce qui est beau quand même dans la démarche, on ne va pas parler des choses négatives, nous on est là pour parler des choses positives, c'est qu'en particulier durant le confinement, vous avez pu avoir des personnes généreuses, des franciliens, des franciliennes, qui en plus de ça souvent quittaient Paris pour se mettre à l'abri un petit peu de la Covid, et qui laissaient leur logement à ces jeunes.
Oui, il y a eu un très bel élan de mobilisation envers les personnes exilées, qu'elles soient mineures ou adultes, pendant le premier confinement. Et beaucoup de personnes nous ont prêté leur appartement parce qu'elles étaient parties se confiner ailleurs. Et on a pu mettre en place tout un réseau qu'on a appelé les voisins et voisines bienveillantes, qui s'assuraient que la personne qui était logée dans un appartement vide allait bien, qu'elle avait la possibilité de faire des courses, voilà, un petit peu de contact humain quand même. Et c'était 60 personnes qui ont été logées de cette façon. Et des liens se sont créés à la fois avec les voisins et voisines, et même aussi parfois avec les gens qui avaient prêté leur appartement, même s'ils n'avaient pas rencontré la personne avant leur retour.
Mmh. Alors aujourd'hui, vous êtes parti sur un projet d'accueil à grande échelle.
On garde notre idée qu'il vaut mieux plusieurs petits lieux qu'un seul grand lieu. Mmh. Ça, c'est l'expérience qui nous a appris ça. À notre échelle, c'est mieux comme ça. Et donc, on veut pouvoir louer un troisième appartement et créer 6 nouvelles places pour des jeunes. Et l'idéal, bien sûr, ce serait de pouvoir multiplier ces initiatives pour qu'un maximum de jeunes puissent bénéficier de cet hébergement et sortir de la vie à la rue.
Vous avez quelles ressources pour assumer ce service ?
On fait appel à la générosité de citoyens et citoyennes, et on est aidé par différentes fondations aussi.
Il y a un site, enfin une page Facebook, c'est lacasaparis.asso. Si vous voulez soutenir cette démarche et cette belle association. Donc Quentin est le responsable solidaire. Merci beaucoup Quentin.
Merci Philippe.
Avec le jeu des 1000 euros, nous passons toute la semaine dans le Var. On commence aujourd'hui avec Nicolas Stoufflet, donc à Entrecasteaux.